Mauricie se lève.
Votre source d'information le matin. 106.9 Mauricie.
Que la Mauricie se lève.
Avec Serge Allary.
Il est 8h12 minutes. Claude Boucher est toujours avec moi en studio pour cette prochaine entrevue. Claude, enfin, hein, ce long lockout qui ne se terminait plus, ben, finalement, après un an et demi, les travailleurs seront de retour demain, là, graduellement.
On parle bien sûr de la luminerie de Bécancour.
De la luminerie Bécancour, c'est-à-dire ABI. Et il semble qu'il y avait le reportage hier de Louis Cloutier, collègue du côté de TVA Mauricie, qui nous parlait que. Il y a pas mal de réaménagements à l'intérieur de l'usine ces dernières semaines, ces derniers mois. Et puis, pour nous en parler, il a eu à commenter souvent, justement, cette histoire entourant ABI. On a avec nous ce matin le professeur titulaire en relations de travail à l'UQTR, Jean-Claude Bernatchez. Bon matin, M. Bernatchez.
Oui, bonjour, M. Allary. Je salue également M. Boucher.
Bonjour, M. Bernatchez.
Donc, M. Bernatchez, il semble que les travailleurs qui vont faire leur entrée demain à l'usine vont peut-être se retrouver dans un milieu qui a été passablement changé au cours des derniers mois.
Oui, effectivement. Là-dedans, l'employeur, à l'évidence, veut un changement culturel, veut une rupture par rapport au passé. Et il y a eu des réaménagements, effectivement, assez importants dans l'usine. Notamment, l'intérieur de l'usine est très éclairé, beaucoup plus qu'avant. Les trois locaux syndicaux qui étaient à l'intérieur de l'usine sont disparus. Est-ce qu'ils vont être placés là? La question se pose. Ce qui veut dire que les activités syndicales vont s'extérioriser davantage.
Okay.
Et puis, surtout au plan de la production, les locaux des travailleurs de la maintenance ont été complètement réorganisés. Maintenant, la maintenance va s'ajuster à la production. La maintenance va être distribuée sur trois quarts. Elle ne sera pas essentiellement de jour, comme avant, avec des rappels au travail de soir et de nuit. Il va y avoir de la maintenance sur les trois quarts et une maintenance qui va se faire très près de la production. Alors, lorsque la production va avoir un problème quelconque, ils vont pouvoir recourir à la maintenance qui va être près d'eux sans devoir faire des rappels au travail. Ça, okay. C'est un priorité de l'employeur. Hein. On en a parlé quelques reprises.
À quel point, M. Bernatchez, ces changements-là dont vous venez de nous parler, on parle de changements quand même plutôt physiques dans l'entreprise, à quel point ces changements-là vont venir teinter l'ambiance de retour au travail à compter de demain matin?
Ben, c'est sûr qu'on est dans un autre contexte. Il faut dire que la force active, la moyenne d'âge de la force active a été modifiée du fait du départ de 156 travailleurs dont la plupart ont pris leur retraite. Ça veut dire qu'on a des ressources humaines dont la moyenne d'âge est plus jeune. Hein. Ça, c'est un premier point. Ensuite, les gens qui vont rentrer vont devoir, bien sûr, faire la relève des cadres qui étaient là, qui les remplaçaient de leur mieux. Là, ils étaient rendus à 120 cuves en fonction sur 720. Ces cadres-là vont être relevés, vont redevenir cadres, et puis la direction va apparemment embaucher une douzaine de cadres pour remplacer les cadres qui sont partis. Donc, on va se retrouver avec un contexte différent. Il faut dire qu'il y a eu quand même une session de formation où tout le monde est tenu de passer avant d'arriver à l'usine. Et puis, dans l'usine, j'imagine qu'il va y avoir un coaching, là, dépendamment des employés rappelés. Par exemple, si on pense au laboratoire, le laboratoire, j'imagine que le coaching ne sera pas long. Les gens vont retourner au laboratoire. Le laboratoire est essentiellement ce qu'il était. Mais si on regarde, par exemple, les travailleurs de la maintenance, là, le coaching va sans doute être ajusté. Et puis les travailleurs de la production aussi, parce que les équipes de travail sont de taille plus réduite et on veut implanter le travail continu. Ça veut dire ceci, lorsque les salariés ont terminé leurs opérations courantes à un endroit donné, ils peuvent être affectés dans des opérations connexes à un autre lieu dans l'usine.
Donc, on veut des employés qui sont plus productifs, là. C'est-à-dire que pendant leur quart de travail, qu'ils soient vraiment occupés, puis qu'une fois qu'une tâche de terminée, bien, qu'on puisse les réacheminer vers une autre tâche.
C'est ça. On veut augmenter la productivité des ressources humaines. C'est d'ailleurs pour cela moins de rappels, des équipes de travail plus petites. Ça veut dire que les charges de travail vont être plus volumineuses. C'est pour ça d'ailleurs que l'entreprise relance ses opérations avec 900 travailleurs au lieu de 1000, comme c'était le cas auparavant, avec sans doute un objectif de production annuelle qui va rester le même, c'est-à-dire à peu près 420 000 tonnes métriques d'aluminium par année de première fusion.
OK. Et...
Bon. Alors, c'est sûr aussi que dans cette affaire-là, le syndicaliste va continuer à jouer un rôle de représentation comme si son mandat prévu dans la loi, bien sûr. Si les activités syndicales se font plus à l'intérieur, à l'extérieur de l'usine, elles vont se faire quand même et l'employeur devra appliquer les lois en conséquence, loi de santé, sécurité du travail, etc., qui demande bien sûr souvent la participation des représentants syndicaux. Il ne faut pas oublier ça non plus. Évidemment, il y a quelque chose d'important qu'il faut peut-être dire qui caractérise le secteur de l'aluminium et les manufactures en général. Sur le secteur manufacturier, M. Allary, il y a 40 ans, c'était 32-33% de l'économie. Maintenant, c'est rendu à 12% de l'économie au Québec. Mm-hmm. Et 12% de l'économie, c'est le secteur manufacturier. Donc, ça a diminué beaucoup. Et c'est moins important dans l'économie que ça l'était auparavant. Maintenant, c'est les emplois de service qui comptent abondamment. Évidemment, ça reste très important pour nous, là. 900 emplois payés, écoutez, la moyenne des salaires à l'automne 2019, là, dans l'aluminium, incluant ABI, ça va être à peu près 95 000 à 96 000 de dollars par année. C'est un très bon salaire. Mais encore mieux que ça, hein, si on va dans la pétrochimie et dans les mines, les salaires vont taper 60 $ l'heure. Donc, c'est le salaire de l'industrie. Là. C'est un bon salaire à Bécancour, mais c'est le salaire de l'industrie. Il ne faut pas l'oublier non plus. À Bécancour aussi, il faut dire que le nouveau régime de relations de travail n'a pas été négocié. Ça, là-dessus, il faut le dire. C'est un régime qui a été proposé par l'employeur et accepté par les travailleurs, nonobstant un vote... Nonobstant une proposition à l'effet contraire de l'exécutif syndical. On est donc dans un modèle singulier, là.
Monsieur Bernacchi, plusieurs intervenants pendant le conflit s'entendaient pour dire qu'éventuellement, il faudra qu'il y ait des investissements à l'usine de Bécancour de la part d'Alcoa, entre autres, et de Rio Tinto, bien sûr. Est-ce que ce ne sera pas ça le principal défi des travailleurs et des dirigeants de l'entreprise, deux parties qui étaient opposées à venir jusqu'à il n'y a pas longtemps, de maintenant travailler main dans la main pour que, justement, on investisse à Bécancour?
Bien, c'est sûr, vous touchez là un point important, là, M. Allary, dans le sens que, vous savez, dans ce conflit-là, au cours de la négociation, certes, le ministre du Travail, M. Boulay, n'a pas cessé d'offrir son aide. Et c'était une aide, j'en suis sûr, qui était de sa part spontanée et véritable. Mais d'autre côté, son patron, le premier ministre du Québec, ça lui enlève pas ses qualités de premier ministre, mais à plusieurs reprises a tiré à bout la vis sur la machine syndicale en disant le syndicalisme est déraisonnable, le syndicat est déraisonnable. Bon, ça a donné une convention collective qui n'a pas été négociée dans le fond, qui a été proposée par l'employeur et acceptée par les membres. Voilà. On est donc dans un nouveau régime de relations de travail, un régime où la direction va avoir plus de pouvoir qu'auparavant. Il va lui appartenir, bien sûr, d'offrir une compétence, un management compétent, d'offrir une qualité de management compétent aux travailleurs pour pouvoir ancrer cette nouvelle culture de relations de travail-là qu'elle veut introduire dans son usine. Bon, ça, elle a le droit de le faire, mais pour le faire, ça demande un management compétent, pas de doute là-dessus. Autrement dit, oui, les travailleurs vont travailler davantage, mais... la direction de l'entreprise aussi devra travailler davantage pour offrir une compétence qui va être inspirante et acceptée de l'ensemble des travailleurs, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Dites-moi, M. Bernatchez, on va redémarrer des cuves qui avaient été fermées. Il y en a qui sont fermées depuis déjà un bon bout de temps. Avant que l'usine fonctionne à plein régime, ça pourrait prendre combien de temps?
Ben, c'est sûr. Écoutez, on a commencé en janvier 2018 par fermer 480 cuves en catastrophe. Ces cuves-là, en passant, ont été fermées par l'employeur. Faut pas l'oublier non plus. C'est pas une grève, c'est un lock-out.
Oui. Okay.
Mais ils ont dû les fermer en catastrophe, ces cuves-là, avec un niveau d'alumine dedans qui était assez élevé. Plus élevé que le permet une méthode de de comment dire, pour une méthode pour repartir les cuves par le, la fameuse méthode crash start. Là, autrement dit, si la plaque d'alumine qui est dedans est assez est basse, si l'alumine est basse quand ils ferment la cuve, ben, très bien, ils peuvent la repartir avec le courant électrique dedans. Mais si l'alumine est trop élevée, il faut qu'ils l'enlèvent, la plaque, avant de repartir la cuve et de mettre du métal chaud dedans.
Okay.
Donc, les 480 cuves qui ont été fermées en catastrophe doivent être partiellement reconstruites. Ça, ça va coûter de l'argent, ça c'est sûr, et c'est quelque chose, quand ils ont fermé en janvier 2018, là, j'imagine que l'employeur s'est dit, ben on fermera pas ça pour rien. Ça, c'est un premier point. Donc, mais ils ont fermé 120 cuves il n'y a pas si longtemps, là. 120 cuves qui ont été fermées sur la seule série qui était sur les 240 cuves, cette série-là qui avait conservé pendant le lockout, qui était maintenue en production par les cadres. Ça va être facile pour eux de relancer les 120 cuves qui viennent de fermer, là.
Okay.
Parce qu'ils ont été fermés avec un niveau de métal chaud dedans qui a figé, une plaque qui était pas trop épaisse. Ça va être facile à repartir, j'imagine.
Okay.
Ce qui va être plus difficile et plus long, c'est les 480 cuves qui ont été fermées en janvier 2018. Là, il y a du travail à faire et sans doute que ceux qui sont rappelés au travail, il y en a 80 à 90 cette semaine, là. Ils ont rappelé des représentants syndicaux la semaine dernière parce qu'ils ont une disposition d'ancienneté préférentielle à respecter. Ils ont rappelé des représentants syndicaux la semaine dernière et maintenant c'est 80 ou 85 travailleurs cette semaine. J'imagine qu'ils vont d'abord redémarrer ces 120 cuves-là pour avoir une série de 240 cuves qui va fonctionner. Puis ensuite, ils vont ouvrir graduellement des 480 cuves qui ont été fermées en catastrophe en janvier 2018.
Ben, écoutez, M. Bernatchez, encore une fois, merci beaucoup, un peu comme à l'usine ABI, de nous avoir mieux éclairé sur toute cette histoire entourant justement la luminerie de Bécancour. Donc, il y a déjà des employés, des travailleurs qui sont en formation, mais ça va réellement ou officiellement recommencer demain. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors, souhaitons-leur bonne chance dans leur nouvelle initiative et dans cette nouvelle expérience de travail-là, dans cette magnifique usine de Bécancour, qui est importante pour tout le monde, dans le fond.
Effectivement. Merci.
Merci
donc,
à vous.
Il est professeur titulaire en relations de travail à l'UQTR, Jean-Claude Bernatchez, que vous avez entendu à plusieurs reprises pendant justement le conflit de travail, le lockout qui a sévi pendant tout près d'un an et demi à l'usine ABI de Bécancour.